Les colloques du Collège de France.
Bonjour à toutes et à tous. Oui, donc je vais vous parler du CO2. Alors le titre reflète un peu l'historique, le CO2 de son utilisation à son stockage géologique. Alors j'ai mis quelques termes et abréviations que vous pourrez, je ne vais pas les balayer, mais vous pourrez vous y référer. Normalement, toutes mes abréviations sont dedans. Alors aujourd'hui, ce qui existe, c'est surtout l'utilisation du CO2. Voilà. Le CO2 est un produit chimique, un gaz utilisé essentiellement dans l'industrie, mais en particulier plus proche de vous dans l'agroalimentaire, les extincteurs par exemple, j'y reviendrai. Donc le CO2 aujourd'hui, c'est 80 millions de tonnes par an sur un marché, c'est-à-dire qui est échangé entre deux acteurs, c'est-à-dire qu'il est conditionné, je ne vais pas dire produit quelque part, et il est transporté à un endroit où il est utilisé. Ça, c'est 80 millions de tonnes par an. Et il y a 100 à 200 millions de tonnes par an qui sont produits à un endroit et utilisés au même endroit, dans la même usine. C'est pour ça que j'ai deux lignes différentes. Donc vous voyez qu'au total, on tourne à un ordre de grandeur de 300 millions de tonnes par an au niveau mondial, avec des émissions des activités humaines qui sont de l'ordre de 40 milliards de tonnes. On est sur à peu près 1% du CO2 qui est émis par les activités humaines, qui est aujourd'hui utilisé comme un produit chimique dans diverses applications. Donc dans le CO2 qui est autoproduit, la deuxième ligne, c'est essentiellement utilisé dans la fabrication de produits chimiques qui sont le carbonate, des carbonates qu'on peut trouver, bon, là il y a plein d'applications, je ne vais pas les faire, et il y a l'urée qui est très connue aussi, qui est un engrais, donc un engrais de base c'est l'ammoniac, et les usines d'ammoniac émettent du CO2, elles prennent une partie de ce CO2 et en font de l'urée avec l'ammoniac, c'est une forme dérivée de l'ammoniac qui est utilisée comme engrais aussi, vous devez le connaître pour certains. Donc la ligne du haut, donc vous voyez qu'il y a un camembert qui dit un peu comment elle est répartie. Donc il y a un petit quart en haut qui est de toutes les couleurs, qui est diverses applications que je vais détailler. Et il y a un gros trois quarts de tiers qui est la récupération assistée d'hydrocarbures qui a été mis au point essentiellement aux USA dans les années 70 et qui constitue l'essentiel de l'utilisation et qui, elle, est très liée au sous-sol. Donc c'est peut-être un peu la base historique du stockage géologique du CO2 qu'on peut avoir dans cette partie bleu ciel. Donc je vais d'abord vous donner la partie multicolore, c'est des choses qui sont assez proches de nous. Donc ça c'est les diverses applications du CO2 qui est, comme je vous l'ai dit, en général conditionné à un endroit, transporté, utilisé par un autre acteur. Donc on l'utilise dans des serres, vous voyez en haut à gauche. Alors la moitié, c'est peut-être l'agriculture et l'agroalimentaire, donc c'est les boissons gazeuses, c'est le dopage de la croissance des végétaux dans les serres. C'est un vecteur de froid. Le CO2 était un des premiers fluides frigorifiques à une époque, et il est en train de le revenir pas mal, pour pas mal de raisons. Mais on peut l'utiliser aussi directement en réfrigérant. Le CO2 lui-même, quand on fait de la glace de CO2, on est très froid, on est environ à moins 80 degrés, et donc on utilise vraiment la glace de CO2 ou ses dérivés CO2 liquide comme un agent direct de refroidissement envers les produits. Bon, soit on surgèle et on refroidit, soit on fait du transport froid. Voilà. Après, à droite, vous avez des applications industrielles qui ne sont pas alimentaires. Voilà, par exemple, traitement des eaux, soudage, divers petits usages de la chimie. Aussi, par exemple, tout ce qui est paracétamol, aspirine, il y a du CO2 qui rentre dans le procédé. Voilà un peu le panneau. Donc ça, c'était vraiment le quart qui est en haut. Ça, c'est les gros trois quarts de tiers bleu, c'est la récupération assistée d'hydrocarbures. Donc c'est une chose que, comme j'ai dit, les Américains ont mis au point quand leur gisement d'hydrocarbures ont commencé à s'épuiser dans les années 70. Donc en fait, ce que vous voyez, c'est qu'il y a du CO2 qui arrive. En général, c'est d'assez grosses quantités. Donc là, on a des pipelines de CO2 qui arrivent, qui sont injectés donc, dans un puits d'injection, CO2 injection well, que vous voyez à gauche. Le CO2 va pousser le pétrole brut jusqu'au puits d'extraction que vous voyez à droite. Le CO2 et le pétrole sont séparés. Donc le CO2 est recyclé et retourne dans le gisement en bas pour repousser à nouveau du pétrole, et le pétrole, lui, suit son circuit vers la raffinerie et les utilisateurs. Donc maintenant, industriellement, c'est deux choses qui existent. Donc l'activité donc, qui est plutôt le petit car multicolore en haut, là où on transporte du CO2, ça ressemble un peu à ça. Ça, c'est un peu la carte des sites de production de CO2. Alors, c'est ceux d'Air Liquide sur le continent européen. Après, on a un peu la même chose sur les deux autres continents. Et vous voyez que pour ma société, on a à peu près 22 sites de production qu'on appelle aussi captage de CO2 qui sont en Europe. On en a 60 dans le monde. Donc, la taille moyenne de ces usines fait quelques dizaines de milliers à 100 000 tonnes de CO2 par an. Après, on liquéfie le CO2, on le transporte par camion, par train, des fois par des petits bateaux, jusqu'aux utilisateurs. Voilà, vous avez quelques récentes usines de production en Europe. Donc, c'est des sources de CO2 qui sont en Europe essentiellement industrielles. Donc, on prend du CO2 qui est très concentré hein, à la sortie des procédés industriels. C'est les unités de production d'ammoniac, donc d'engrais, les unités de production d'hydrogène, les unités de production de bioéthanol, où il y a de la fermentation. Hein, donc, chaque fois qu'on fermente, on fait à la fois, en général, un alcool ou un hydrocarbure et du CO2. Et donc, ce CO2 ressort très pur. Donc, on a tendance à aller le chercher là. C'est comme tous les minerais. On va chercher d'abord le produit là où il est le plus concentré. Ça, c'est le schéma de la récupération assistée d'hydrocarbures aux États-Unis. Alors, ça date un petit peu, je crois que ça date de 2014, mais les ordres de grandeur doivent toujours être là. Donc, si on prend cette carte où il y a beaucoup de couleurs, vous avez dans les patatoïdes orange, je ne sais pas si je peux, oui, je peux montrer un petit peu, voilà, les patatoïdes orange, comme ce que vous voyez là, c'est les zones où on injecte le CO2 pour faire sortir les hydrocarbures. Les rectangles roses et les ronds bleus, ce sont les sources de CO2. Donc, quand c'est des rectangles roses, c'est des sources de CO2 industrielles. C'est un peu les mêmes que je vous ai montrées avant. C'est des sources typiquement de production d'ammoniac ou de fermentation de bioéthanol, par exemple. Et les ronds bleus, c'est des sources de CO2 naturelles. Parce que vous savez bien qu'il y a des eaux minérales gazeuses naturelles, donc il y a bien du CO2 qui est présent dans le sol, que ce soit mélangé par exemple avec du gaz naturel ou mélangé avec de l'eau. Et donc il y a des puits d'extraction de ce CO2 du sol qui ressort très pur. Et on sépare ce CO2 de l'eau en général et on le met dans des réseaux de pipelines que vous voyez, c'est les traits noirs que vous voyez là, qui font plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres et qui transportent le CO2 depuis les sources jusqu'aux zones d'utilisation. Donc, voilà, donc ça, c'est à peu près 50-60 millions de tonnes de CO2 par an qui sont produites et utilisées essentiellement sur le continent nord-américain. Depuis les années 70, et donc c'est injecté dans le sous-sol. Alors sur le contexte énergétique et climatique mondial, pourquoi on s'intéresse au CO2 et pourquoi je dirais on en arrive à se dire qu'il faut qu'on fasse quelque chose de ce CO2, donc plutôt dans le sens de éviter que le CO2 qui est émis par les hydrocarbures aille dans l'atmosphère. Donc ça, c'est un graphique de l'Agence internationale de l'énergie qui date de 2021, mais je pense que ça n'a pas trop évolué. Vous avez la consommation d'énergie primaire du monde. Donc l'énergie primaire, c'est l'énergie qui est extraite de l'environnement. Donc dans la chaîne de valeur énergétique, vous extrayez de l'énergie de l'environnement, vous coupez du bois, vous extrayez du pétrole du puits. Cette énergie, ça s'appelle l'énergie primaire. Et quand cette énergie est transformée en électricité, transportée dans des fils ou transformée par une raffinerie et mise à la pompe, on appelle ça une énergie finale. Et bien sûr, entre l'énergie primaire et l'énergie finale, il y a eu des pertes, essentiellement en chaleur. Donc si on somme toutes les utilisations d'énergie qui passent les compteurs, il y a moins que ça. Ça, c'est vraiment ce qui est extrait de l'environnement, donc le maximum au départ. Donc vous avez 254 exajoules qui étaient extraites en 1973 et on était à 606 en 2019 et on est resté à peu près aux trois quarts, hein, répartition charbon, pétrole, gaz naturel, fossile. Le reste étant donc de la biomasse qui est beaucoup utilisée, alors essentiellement utilisée pour faire du feu, de la chaleur, de la cuisine. Hein. Au niveau mondial, et puis un petit peu d'hydro, de nucléaire, un petit peu plus maintenant, et de over, ça c'est le solaire et le photovoltaïque et l'éolien. Voilà. Donc, en gros, pour faire la transition, pour arriver à un zéro net d'émissions, je dirais soit on arrive à faire croître, alors à consommation d'énergie constante, hein, bien sûr. Soit on arrive à faire croître, on peut aussi se dire qu'on a besoin de moins d'énergie et faire de la sobriété, mais soit on fait croître ce qui est ici, ce qui est faisable, mais qui c'est quand même assez considérable de faire passer ça de 20 à 100%. Soit, effectivement, on peut se dire, bah, ça, ça émet du CO2, quand c'est utilisé, est-ce que je ne peux pas éviter que ce CO2 aille dans l'atmosphère ? Et c'est un peu comme ça qu'on est arrivé à se dire qu'on peut le stocker dans le sous-sol. Et donc, c'est ça un peu l'équation. Donc ça, on va parler maintenant de CSC, captage et stockage du carbone, donc stockage géologique dans le sol, et CCS, Carbon Capture and Storage en anglais, par un peu, pas opposition, mais complément à ce que j'ai montré avant, qui était une utilisation du CO2. CCU en anglais, CSV en français, on appelle ça CVS, CVC, c'est-à-dire captage et valorisation du carbone en français. Donc là, un schéma type de chaîne de CCS, stockage géologique du CO2, tel que c'est, on va dire, quasi mis en œuvre en Europe, ça ressemble un peu à ça. Donc les stockages géologiques de CO2 qui sont, je dirais, le plus prévus en Europe sont des stockages géologiques offshore. Mais ce n'est pas obligatoire de stocker le CO2 en offshore, on peut le stocker en onshore aussi, hein. C'est exactement comme un hydrocarbure au premier ordre. Donc on stocke ici, on enfouit le CO2 entre 1000 et 4000 mètres de profondeur. Donc il est arrivé depuis la côte, soit par pipeline. Donc ça c'est un peu la configuration qu'on a à Rotterdam. Donc les émetteurs de CO2 sont en général des gros émetteurs industriels ou des grosses centrales thermiques, hein, type centrale à charbon, sur lequel donc, on va venir séparer ce CO2 des autres composants qu'il y a dans les fumées. Une fois que ce CO2 est pur, on le met dans des pipelines qui vont jusqu'au port, et après du port, donc soit on a un pipeline qui va jusqu'au stockage, configuration Rotterdam, soit il n'y a pas de pipeline, donc qui va jusqu'au stockage, donc vous oubliez ça. On va liquéfier le CO2, un peu comme on liquéfie le gaz naturel. On va le charger sur des bateaux. Ces bateaux vont transporter le CO2 jusqu'à un port, le décharger, et là, ce port-là a un pipeline qui va jusqu'à un stockage offshore, et on stocke. Voilà. Donc c'est ça un peu les chaînes qui sont envisagées. Donc la première de ce type est construite et en cours de mise en route en Norvège. Alors maintenant, qu'est-ce qui est concerné ? Bon, là, un peu rapidement, les émissions mondiales de CO2 par secteur. Donc, je vous ai dit que ça concernait des gros émetteurs. Donc, en orange, ça, c'est les émissions de CO2 mondiales du secteur de l'énergie. Donc, en France, on n'en a pas trop, mais dans le monde, il y a énormément d'électricité qui est fait, d'énergie qui est fait à partir du charbon. Vous avez toute l'industrie qui est là. Bon, par contre, clairement, ce n'est pas un sujet pour les transports, parce que ce n'est pas des technologies qu'on pense peut-être à certains gros bateaux, mais on a besoin quand même de très grandes sources de CO2. Ce n'est pas du tout un sujet pour la voiture individuelle ou les camions, a fortiori les avions. Ce n'est pas faisable, ce n'est pas envisageable. Alors, si on va un petit peu dans la production d'électricité, donc la part de camembert orange qui est là, si on la détaille aujourd'hui, il y a à peu près 38% d'électricité mondiale qui est faite avec du charbon et 23% avec du gaz, un petit peu encore avec du pétrole, donc c'est essentiellement le charbon-gaz qui sont des candidats potentiels à cette technologie. Et donc ici vous avez les projets de... Alors c'est à la fois des projets de stockage du CO2 où on enfouit le CO2 dans le sol et on fait du pur stockage, et des projets où on injecte le CO2 dans le sol pour faire ce que je vous ai montré avant, de la récupération assistée d'hydrocarbures. Voilà. Donc c'est ce que j'ai résumé avec des projets où c'est quelque part là où on met du CO2 dans le sous-sol. Voilà. Donc en rouge, vous avez les projets qui sont en opération. Donc sans surprise, vous voyez que c'est essentiellement ce que je vous ai montré, c'est-à-dire ce qui est en opération pour essentiellement, je crois qu'il y a peut-être un ou deux projets où c'est du stockage pur, mais c'est essentiellement de la récupération assistée d'hydrocarbures. Au Brésil, en Arabie Saoudite et en Chine, les ronds rouges, c'est aussi de la récupération assistée d'hydrocarbures, à ma connaissance. Je vous donne ici une source qui est le Global CCS Institute. Là, moi, je suis de 2018. Ça a certainement un peu évolué depuis, mais vous pouvez avoir des détails et de l'actualisation sur ce site. Et en rouge, donc en Europe, vous avez deux ronds, donc Snøhvit et Sleipner, qui sont en Norvège et qui sont en. C'est des stockages de CO2, là, sans récupération assistée d'hydrocarbures, que les Norvégiens opèrent depuis déjà quelques dizaines d'années. Donc je ne les ai pas mentionnés avant parce qu'en fait, c'est des stockages de CO2 qui sont dédiés à un seul émetteur. En fait, ils extraient du gaz naturel d'un gisement. Le gaz naturel ressort avec du CO2. Le CO2 est séparé du gaz naturel parce que pour le mettre dans les tuyaux, si on laisse le CO2 avec le gaz naturel, vos gazinières et tout le reste va moins bien marcher. Donc on sépare ce CO2 au niveau de la plateforme gazière. En général, il est mis à l'air. Simplement, les Norvégiens ont mis en place un dispositif qui fait que l'opérateur de la plateforme gazière est intéressé à stocker ce CO2. Géologiquement, donc c'est ce qu'ils font depuis quelques dizaines d'années, dans un réservoir géologique qui est à côté de celui du réservoir de gaz naturel, ils réinjectent. Donc il y a plusieurs, je ne sais plus les ordres de grandeur, mais il y a certainement quelques centaines de milliers, voire millions de tonnes de CO2 qui sont déjà stockées dans des formations en Norvège. Les deux nouvelles qui devraient arriver en Europe et qui, elles, devraient vraiment concerner des chaînes, comme je vous ai montré ici, c'est-à-dire vraiment où on va chercher du CO2 de plusieurs émetteurs et où on le transporte par bateau ou par pipeline jusqu'à un stockage. C'est les deux oranges que vous voyez là. C'est encore un gisement en Norvège, donc qui a été ouvert par plusieurs acteurs, dont Total Energy et Equinor, et un stockage au large de Rotterdam, qui est un ancien gisement de gaz naturel qui est épuisé, dans lequel les Néerlandais vont réinjecter du CO2 qui est capté des industries de Rotterdam. Et également, vous avez le puits de Gorgon en Australie, qui lui aussi est un pur stockage de CO2 qui a été ouvert depuis quelques mois. Je pense qu'il est opérationnel. Voilà. Alors, rapidement, je regarde l'heure. Je vais vous montrer les technologies de captage et liquéfaction de CO2. Donc, captage du CO2, bon, qu'est-ce que c'est ? Parce que quand on brûle un hydrocarbure fossile ou biogénique, hein, il n'y a pas de raison de. J'y reviendrai un peu tout à l'heure, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas biogénique, ça marche exactement pareil. Si vous le brûlez avec de l'air, vous avez en général un mélange de trois molécules. Vous avez du CO2, de l'eau et de l'azote. Parce que l'air, l'oxygène de l'air a réagi avec le carbone et l'hydrogène de l'hydrocarbure pour faire du CO2 et de l'H2O. Mais l'azote de l'air, qui est en quantité énorme, n'a pas réagi et donc ressort tel quel. Donc capter le CO2, ça veut dire séparer le CO2, ça, c'est ce rectangle bleu quelque part schématiquement, ça veut dire séparer le CO2 dans ce cas-là de l'eau et de l'azote. Donc on ressort un CO2 pur qu'on va après comprimer, transporter pipe ou liquéfier pour transporter par bateau jusqu'à son stockage géologique. C'est ce qu'on appelle un captage de CO2 post-combustion parce qu'on fait la combustion, hein, on brûle l'hydrocarbure et on capte après. Ce qu'on peut faire aussi, c'est une oxycombustion, c'est-à-dire qu'au lieu de brûler l'hydrocarbure avec de l'air, c'est-à-dire un mélange azote-oxygène, on va le brûler avec de l'oxygène pur. À ce moment-là, on a du CO2 qui est mélangé qu'avec de l'eau, on n'a plus du tout l'azote. Et donc la séparation du CO2, ce rectangle bleu, elle est très simplifiée puisqu'il faut juste séparer le CO2 de l'eau. Et après, la chaîne est la même. Bon, énergétiquement, ça, c'est beaucoup moins coûteux que ça. Mais il a fallu mettre de l'énergie en amont pour séparer l'azote et l'oxygène. Donc, globalement, ce n'est pas évident de dire que l'un est meilleur que l'autre. Ça dépend des cas. Il faut faire des études assez poussées pour voir si un système est meilleur que l'autre. La dernière manière de faire, donc ça, c'est un captage de CO2 en oxycombustion. C'est le 2. Et le 3, c'est quelque part faire de l'hydrogène avant. Donc ça, c'est ce que faisait Gaz de France, pour ceux qui ont connu le gaz de ville. À une époque, avant qu'il y ait le gaz naturel dans le tuyau, il y avait le gaz de ville. Donc, quand la France avait du charbon, hein, dans les années 50-60, on prenait du charbon, on rajoutait de la vapeur et de l'oxygène et on faisait une gazéification. Donc, on a un mélange d'hydrogène, de monoxyde de carbone et de CO2. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait un shift. Donc, quand on faisait les usines de gazéification françaises, donc votre gaz de ville qui était dans vos tuyaux à l'époque, c'était de l'hydrogène et du monoxyde de carbone. C'est pour ça qu'à l'époque, on se suicidait au gaz. Parce que si on ouvrait le robinet de gaz, on avait du monoxyde de carbone. Et c'est ça qui empoisonnait, en fait, les gens qui suicidaient au gaz à l'époque. Aujourd'hui, ça ne marche plus du tout comme ça. Donc ne le faites plus. C'est pas bien de le faire avant, mais faites-le encore moins. Vous avez moins raison de le faire. Donc ce qu'on fait quand on veut faire un captage du CO2, c'est qu'on a une petite réaction chimique pour retransformer le CO, le monoxyde de carbone, en hydrogène et en CO2. Et le rectangle bleu revient à séparer l'hydrogène du CO2. Le CO2 suit son petit chemin. Et c'est l'hydrogène qui devient un combustible. Donc en fait, il est brûlé après. C'est exactement comme n'importe quel autre combustible. On le brûle avec soit de l'air, soit de l'oxygène pur. Et il fait de la chaleur. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle le captage de CO2 pré-combustion, parce que la combustion se fait après le captage de CO2. Voilà. Alors il y a plusieurs principes. Les rectangles bleus que vous voyez là, il y a plusieurs procédés et principes chimiques qui sont utilisés. Je ne vais pas tous les détailler. Vous en avez un ici qui est le plus répandu aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle le captage par absorption. Donc en fait, vous mettez un solvant, vous envoyez votre mélange qui est du CO2, de l'azote, il reste un petit peu d'oxygène. L'eau, en général, on l'a enlevée avant, c'est très simple. Donc en gros, ce qu'il faut séparer, c'est surtout le CO2 de l'azote. L'oxygène, il y en a un petit peu, mais ce n'est pas très embêtant. Donc vous mettez ça dans une colonne, en fait, vous envoyez un solvant dedans, hein, exactement comme vous dissolvez du sucre dans de l'eau. Le CO2 va se dissoudre dans le solvant. Donc le solvant va embarquer le CO2 dans un autre récipient. Et ce solvant-là, on va le chauffer. Donc en le chauffant, là, on va faire ressortir le CO2. Il n'y a que le CO2 qui sort. Et à ce moment-là, il ressort très pur et on va pouvoir l'envoyer dans toute la chaîne derrière. Je vous ai mis un peu... Ça consomme de l'énergie. Hein, ça consomme de l'énergie, de la chaleur, de l'électricité. Globalement, le truc est fait pour qu'on consomme... Pour qu'avec l'énergie qui est là... on soit quand même nettement positif si on va enfouir ce CO2. Voilà. Je vais la faire simple. Après, si vous avez des questions plus précises, je pourrais venir sur les ordres de grandeur. Mais il faut être vigilant. C'est pas si simple que ça. Ça peut être quand même entre 5 et 30% du CO2 qui est émis par l'énergie nécessaire qu'il faut pour le capter par rapport au CO2 qu'on capte. Donc il faut être vigilant, mais globalement, on sait faire des captages de CO2 très positifs en émissions de CO2 nettes. Bon. Un autre principe, c'est la liquéfaction. Donc ça, c'est comme la liquéfaction, c'est la distillation, en fait. Hein. C'est comme on distille pour produire du rhum ou de l'azote. On va chauffer, simplement, ça se passe à température négative. On va avoir une colonne à distiller. Donc habituellement, sur la distillation la plus connue, vous avez l'alcool qui sort en haut de l'alambic et vous avez l'eau qui sort en bas de l'alambic. Là, vous avez l'oxygène et l'azote qui sortent en haut de l'alambic et le CO2 qui sort en bas. Voilà. Et ça consomme que de l'électricité parce que ça se passe à basse température. Donc en gros, il faut un système frigorifique et un frigo, ça consomme de l'électricité. Voilà, les autres, je ne vais pas vous les détailler. Donc une fois qu'on l'a capté, on va le transporter. Alors aujourd'hui, pour le transporter, pour ce qui est les utilisations classiques, donc plutôt des petits volumes, on va utiliser des citernes, on va le transporter sous forme liquide, souvent. Donc c'est un peu des citernes que vous voyez sur la route. Extérieurement, c'est un peu comme le pétrole, ou les citernes de propane ou de gaz naturel. Quand il y en a un petit peu en France maintenant, il n'y a pas que des gaz naturels dans les tuyaux. Donc c'est typiquement ce qui se met sur des camions ou des iso-containers qu'on peut mettre sur du multimodal. Vous avez des wagons, on fait du transport par train. Vous avez du transport par petit bateau, donc on est plutôt à 1000 ou 2000 tonnes de CO2 dans un bateau. Et après, si on a des volumes et pas trop de distance, on fait du transport par pipeline local, un peu comme il y a des tuyaux de gaz naturel. Il y a des tuyaux de CO2 dans certains endroits. En France, en Europe, pardon, il y en a des très gros aux États-Unis, que je vous ai montré, là parce qu'on est sur une taille un peu plus grande. Pour le stockage géologique du CO2, donc en gros, l'échelle, c'est un peu un x10 par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui en transport. Donc on est obligé de prévoir des transports un peu plus gros. Donc là, on est forcément soit sur du bateau, avec des bateaux, donc ceux qui sont construits pour le premier stockage en Norvège, en Europe, on fait à peu près dans les 8000 tonnes de CO2. Vous avez à peu près les tailles ici, les durées de voyage, les quantités qu'on peut transporter par un bateau par an. Et quand on est sur des... Et sinon, on peut transporter le CO2 par des pipelines longue distance, un peu comme je vous ai montré aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, ils font essentiellement de la récupération assistée d'hydrocarbures, mais on peut utiliser également des pipelines pour faire du stockage pur. Avec des pipelines, on peut transporter du CO2 de l'ordre de plusieurs millions de tonnes de CO2 par an. Alors, le stockage géologique, je ne suis pas un grand spécialiste du stockage. Je Je vais essayer de répondre à quelques questions, c'est pour ça que je ne vais pas m'étaler beaucoup dessus. Mais en gros, voilà, c'est ce que je vous ai dit, les principales formations géologiques qui sont étudiées aujourd'hui, c'est les aquifères salins et les réservoirs d'hydrocarbures épuisés, dans lesquels on injecte déjà du CO2. Les profondeurs typiques, je l'ai déjà dit, entre 1000 et 4000 mètres. Les capacités d'injection typiques, c'est 1 à 5 millions de tonnes de CO2 par an et par puits. Voilà, c'est à peu près ça, un forage, c'est ça, en gros. Après, on peut faire plusieurs forages et multiplier un peu les capacités d'injection. Alors, après, je vais venir sur le sujet de la conférence. Et maintenant, ce que je vous ai montré, c'était plutôt éviter d'envoyer dans l'atmosphère des émissions de CO2, mais la même technologie, le même type de technologie peut être appliqué pour extraire du CO2 de l'atmosphère. Donc là, on est plutôt sur des termes qui sont l'extraction du dioxyde de carbone de l'atmosphère, ou en anglais, carbon dioxide removal. Donc l'extraction du CO2 de l'atmosphère, bon, ça, je pense que vous en avez déjà vu ce matin, ça peut se faire par des procédés naturels ou artificiels. Vous avez les puits naturels, que sont les végétaux, hein, essentiellement, et les sols. Vous avez la minéralisation, donc on peut utiliser effectivement la propriété de certaines roches, type olivine ou basalte, à réagir avec le CO2 ou l'océan. Et il y en a deux qui sont des dérivés de ce que j'ai montré, qui sont le bioénergie CCS et qui sont le DAX, c'est-à-dire le Direct Air Capture CCS, où on va directement prendre le CO2 de l'air pour l'enfouir. Donc je vais détailler ces deux-là. Là, vous avez un slide un peu chargé, je vais m'arrêter un peu dessus. Donc vous avez ce que je vous ai montré avant, c'est plutôt... Alors, ce qu'on fait habituellement, c'est ça. On extrait un hydrocarbure du sol, donc plus un kilo de CO2, hein, qu'on va, par la combustion d'hydrocarbure, émettre à l'atmosphère. Ce que je vous ai montré avant, qui est plutôt ce qu'on va appeler le Carbon Capture and Storage, CCS fossile, c'est on va capter une grande partie du CO2, en général 90 voire 95, certaines sources on arrive à 99%, mais là on a pris un captage de CO2 qui capte 90%, donc sur 1 on continue à émettre 0,1, et le reste on va le stocker dans une formation géologique. Le carbon dioxide removal, là l'idée il est de dire on va vraiment prendre du CO2 de l'atmosphère et l'enfouir. Alors c'est plus un complément, c'est pas une substitution au précédent. Et là, ce que je vous mets, c'est ce qui concerne le bilan matière du CO2 uniquement. Bien sûr, ce qu'il faut rajouter dans le système, c'est les émissions de CO2 pour les procédés qui servent à faire tout ça. Donc la construction des pipelines, la construction des usines, l'énergie qu'il faut pour faire tout ça, ça émet potentiellement du CO2, donc il faut le compter dans le bilan. Pas compté ici, là vous n'avez pas les chiffres. Ce que je vous ai dit, ça peut être de l'ordre de 5 à 30%, si on ne fait pas gaffe. À 30%, on ne le fait pas parce que, en général, ce n'est pas rentable, ça ne vaut pas le coup. Mais on essaye plutôt d'arriver entre 2 et 5%, 10 maximum, du CO2 qu'on stocke, qu'on réémet avec les systèmes artificiels, les procédés qui servent à faire l'opération. Donc sur ces deux technologies, ce que je peux dire sur le bioénergie CCS, c'est quelque part, c'est je brûle, au lieu de brûler, hein, au lieu d'extraire un hydrocarbure du sol, je vais brûler de la biomasse, je vais capter 90% du CO2 issu de la biomasse et je vais le stocker. Donc quelque part, cette biomasse a bien pris du CO2 de l'air avant et je l'ai remis dans le sous-sol. Ça, c'est le bioénergie, pardon. C'est le bioénergie CCS. Donc, on est exactement sur le même type de technologie que ce que je vous ai montré sur le CCS à base de CO2 fossile. La seule chose qui change, c'est qu'au lieu de mettre un hydrocarbure fossile dans votre procédé qui génère le CO2, vous mettez de la biomasse. Mais au premier ordre, c'est pareil. Quelques petites différences, mais on ne va pas les détailler aujourd'hui. Et la deuxième, c'est le captage direct du CO2 de l'air. Donc, ça peut être réalisé par le même type de technologie que ce qu'on a vu sur le CCS sur base de CO2 fossile ou biogénique, mais théoriquement, le CO2 dans l'air, ce que je vous ai dit, c'est que c'est comme tout gisement, on va chercher les plus concentrés. D'accord ? Donc plus le CO2 est concentré, moins il coûte cher en énergie, moins il coûte cher en capital à capter, donc à séparer des autres composants. C'est comme tout minerai. Donc quand on est dans des fumées aujourd'hui, les sources industrielles qu'on capte le plus souvent, elles sont entre 50 et 95% de CO2. Je parle en moles, hein. Je parle en molécules, pas en masse. Le CCS, on envisage de descendre jusqu'à 10 à 15% de CO2 dans les fumées pour le faire. Le CO2 dans l'air, c'est 0,04%. Donc là, on est beaucoup, beaucoup plus dilué. On est à peu près 300 fois plus dilué que dans les fumées de vos cheminées, de vos chaudières à gaz chez vous, hein. Vous êtes à peu près à 10% dans vos chaudières à gaz. Donc on est 300 fois plus dilué. Donc fort logiquement, on va se dire que ça va coûter quand même beaucoup plus cher de capter le CO2 de l'air. Ça va être beaucoup plus consommateur d'énergie. Alors c'est vrai, en énergie, pas tant que ça, parce que l'énergie minimale théorique thermodynamique pour capter le CO2 dans l'air, donc qui est à 0,04%, par rapport à du CO2 qui est à 15% dans vos cheminées, ce n'est que 3 fois plus. Ça a beau être 300 fois plus dilué, c'est théoriquement que 3 fois plus coûteux en énergie. Donc ce n'est pas si inaccessible que ça. Par contre, il est 300 fois plus dilué. Donc pour traiter la même quantité de CO2, vous êtes obligé de traiter 300 fois plus de volume de gaz. Voilà. Je prends une cheminée, je dois avoir une usine qui va traiter 1. Je prends de l'air, pour avoir la même quantité de CO2, je dois faire une usine qui doit traiter 300, donc qui est 300 fois plus grosse, qui va coûter beaucoup plus cher. C'est ça les différences fondamentales qu'on peut avoir sur ces deux procédés. Et je pense que j'ai terminé. Donc si vous avez des questions, et nous sommes à l'heure. Voilà, merci beaucoup de votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.